Olympiques d'hiver de Milan Cortina. Les Américaines plus fortes que les Canadiennes. Elles l'ont emporté 2-1 en finale de hockey sur glace. Si c'est OK pour vous, je vous rends le micro, Juan Gomez.
C'est OK pour moi. Merci Martin Guez. Bonne journée. Okay, okay. 9h10 à Paris, 8h10 en temps universel. On revient dans 30 secondes.
Littérature sans frontières, Catherine Fruchon-Toussaint.
Née en Bulgarie après la chute.
Radio G, 101.5 FM.
Bonjour à toutes et à tous, nous sommes vendredi matin, il est 9h10 et vous êtes sur Onde Positive, l'émission de Radio G dédiée à la santé sexuelle, à la prévention et à la vie affective. Moi c'est Florian.
Et moi c'est Halima.
Et comme toutes les deux semaines, on vous retrouve de bonne humeur, les vendredis à 9h10 sur Radio G 101.5 FM, en DAB+, et sur le site radio-g.fr pour parler de santé sexuelle et vous aider à prendre soin de votre corps et de votre intimité, sans jugement, sans tabou et de façon positive. Alors, pour celles et ceux qui ont déjà écouté nos précédentes émissions ou qui voient un peu à quoi ressemble le logo de notre émission, vous savez que le sujet qui nous préoccupe et nous tient à cœur est celui du VIH.
Oui, alors si vous ne voyez pas trop à quoi ressemble le logo, rendez-vous justement sur le site radio-g.fr, vous pouvez y aller tout de suite. Vous allez dans la rubrique Onde Positive pour découvrir donc ce magnifique logo créé par Florian. Et surtout, vous pouvez retrouver toutes nos émissions où on reçoit régulièrement des invités.
Tout à fait. Des invités qui témoignent de leur expérience et de leurs actions en faveur de la santé sexuelle et de la lutte contre le VIH. Et c'est d'ailleurs encore de lui que nous allons parler aujourd'hui. Il y a beaucoup de méconnaissances autour du VIH. Alors, être bien informé, c'est un élément important pour prendre soin de sa santé, mais aussi prendre soin des autres. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, eh bien, on voulait aborder un sujet important. Il s'agit de la lutte contre la sérophobie. Alors, la sérophobie, c'est quoi ? Eh bien, pour faire simple, c'est la peur et le rejet des personnes séropositives au VIH et les discriminations qui en découlent. C'est encore aujourd'hui un problème majeur pour les personnes vivant avec le VIH, souvent bien plus d'ailleurs que le VIH lui-même. Alors, quelles en sont les causes ? Quelle forme cela peut prendre ? Quelles conséquences cela peut avoir ? Et surtout, comment lutter contre ? On vous dit tout sur la sérophobie tout de suite dans Onde Positive.
Alors Florian, tu le disais tout à l'heure justement dans l'intro, on va tout vous dire sur la sérophobie, mais en fait c'est un sujet tellement vaste, il y a tellement de choses à en dire que c'est juste impossible de tout aborder en seulement 30 minutes. Donc on va en parler, on va parler aujourd'hui de certains aspects, mais on fera certainement une seconde émission plus tard dans l'année. Et d'ailleurs pour cette seconde émission, on aimerait beaucoup partager vos témoignages.
Oui, alors si vous avez vécu de la sérophobie, que ce soit dans votre vie privée, dans le monde du travail ou encore dans le milieu médical, et si vous souhaitez en témoigner, eh bien vous pouvez nous raconter ça en nous envoyant un message qu'on lira à l'antenne. Et vous pouvez même nous contacter pour venir témoigner dans l'émission. Et pour cela, rendez-vous sur notre Instagram, @ondp_radio-g, ou envoyez-nous un mail à ondp.radio-g@gmail.com.
Voilà, et pour toutes celles et tous ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas très bien le sujet, alors on peut peut-être commencer par expliquer c'est quoi la sérophobie ?
Effectivement, alors en fait la sérophobie, alors il est bien sûr créé sur le même modèle que les mots comme homophobie ou xénophobie, et en fait la sérophobie c'est l'hostilité, le rejet, la peur des personnes vivant avec le VIH. Alors elle se glisse souvent dans des situations ou des petites phrases que l'on pense anodines, mais qui sont toujours des actes de violence verbale, psychologique ou physique. Cette sérophobie peut se manifester par des attitudes individuelles, mais aussi par des situations institutionnalisées. La sérophobie d'État n'est pas de l'histoire ancienne, nous y reviendrons tout à l'heure. Alors cette discrimination est pendant longtemps passée sous silence, mais depuis quelques années, les personnes se lèvent de plus en plus pour la dénoncer et révéler les situations concrètes. Alors c'est un travail colossal qui est mené par les personnes et les associations qui défendent les droits des personnes vivant avec le VIH. La tâche est d'autant plus grande que les situations sont diverses et que la sérophobie s'exerce de façon parfois insidieuse à tous les niveaux du quotidien. La sérophobie peut alors être présente dans le cadre familial, amical, professionnel, sportif et médical. Cela passe par des attitudes jugeantes ou moralisatrices, en appuyant notamment sur la responsabilité des personnes dans leur contamination. Alors des propos du type, entre guillemets, avec toute l'information autour du sida, franchement, si t'as été contaminé, eh ben, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. C'est très très violent quand même, comme
oui,
phrase
oui, oui.
qu'on entend.
Oui, pourquoi t'as pas mis de capote, et voilà, exactement.
Voilà, effectivement. Alors d'ailleurs, selon une enquête IFOP de 2024, 16% des Français et Françaises indiquent être mal à l'aise à l'idée d'avoir un collègue ou une collègue de travail séropositif. Donc la peur du séropositif, entre guillemets, augmente davantage lorsque la relation devient plus intime. 46% des Françaises françaises continueraient à avoir des rapports sexuels avec un partenaire dont ils apprendraient la séropositivité. Et donc en fait, plus de la moitié arrêterait d'avoir des rapports sexuels. Alors, ces situations dans le cadre de relations personnelles, tout comme dans le couple, sont souvent liées à une méconnaissance sur le VIH et aux préjugés qui sont véhiculés par les médias, les réseaux sociaux ou les personnes mal intentionnées. On a en premier lieu la méconnaissance du I égale I, et en fait, qui veut dire qu'une personne séropositive en charge virale indétectable, c'est le premier I, ne transmet pas le VIH, elle est intransmissible. C'est le deuxième I de la formule I égale I ou U égale U en anglais. De même, il y a une méconnaissance des modes de contamination. Alors, rappel très très rapide, aucun risque avec la salive ni la sueur. Et le VIH ne se transmet pas non plus par contact physique. Et donc tout ceci est prouvé scientifiquement. Donc si vous voyez passer des choses sur les réseaux qui disent le contraire, eh bien, ne prenez pas ça, enfin, ne le croyez pas, parce que c'est vraiment entièrement faux.
C'est du fake news.
Tout à fait. Et d'ailleurs, ce sont les mêmes peurs infondées qui agissent dans le milieu médical. Et je vous propose d'écouter le témoignage de Nina, qui vit avec le VIH et qui a été confrontée à la sérophobie à l'occasion d'une opération médicale.
Nina a 24 ans. C'est une artiste dans l'âme, elle danse, écrit et met en scène. En 2018, Nina contracte le VIH. Elle sait que grâce au traitement, elle peut vivre sans transmettre le virus. Lors d'une répétition de danse, Nina se blesse au genou et il faut opérer. Rien de bien grave, tout devrait bien se passer. L'anesthésiste sait qu'elle est séropositive. Le réveil de Nina est douloureux, mais pas à cause de son genou. L'équipe soignante est distante et désagréable, c'est l'incompréhension. Le chirurgien entre dans la chambre, il attrape violemment Nina par le pied et lui dit « Vous devriez avoir honte de faire prendre un risque à mes équipes. »
Le VIH ne m'empêche pas de prendre soin de ma santé. Les préjugés, oui.
D'ailleurs, il est plus simple de documenter la sérophobie et la discrimination faites par les professionnels de santé. C'est le cas pour les dentistes, qui ont été épinglés en 2015 par l'association AIDE suite à un testing. Alors en fait, c'est des militants et militantes de l'association AIDE qui avaient appelé des dentistes, donc le standard des dentistes. Et en fait, les personnes prenaient rendez-vous, soit elles énonçaient clairement qu'elles étaient séropositives, soit elles ne le disaient pas. Et en fait, eh bien, on a constaté des différences de propositions de rendez-vous, en fait, pour les personnes. Et en fait, un dentiste sur trois s'arrangeait pour ne pas recevoir les personnes séropositives, soit en refusant tout simplement du fait du VIH, soit en trouvant des prétextes pour rendre impossible le rendez-vous. Alors, ça allait de l'inquiétude sur la solvabilité de la personne à des propositions d'horaires contraignant, voire impossible du coup pour la personne, soit très tard le soir, soit très tôt le matin, enfin des trucs pas du tout arrangeants, ou alors annoncer un dépassement d'honoraires, et forcément c'est assez, ça rebute pas mal de personnes. Et d'ailleurs, Nina en parle aussi, puisqu'elle a été aussi victime de sérophobie chez un dentiste, et je vous propose de l'écouter aussi.
et entendre les secrétaires du dentiste dire qu'il faudra dire au médecin de désinfecter les sièges trois fois avant et après mon passage parce que j'ai le VIH, bah du coup c'est extrêmement violent aussi parce que on a l'impression qu'on est moins que rien.
La même enquête IFOP montre que 14% des Français et Françaises seraient mal à l'aise à l'idée de fréquenter le même cabinet médical qu'une personne séropositive.
Alors qu'il n'y a aucun risque. On le rappelle, il n'y a aucun risque.
Et oui, merci Anima de le rappeler, effectivement. Et j'en parlais tout à l'heure, la sérophobie peut aussi être institutionnalisée par l'État, au niveau législatif ou réglementaire, ou alors par l'intermédiaire de questionnaires médicaux qui encouragent les discriminations. Et c'est le cas, par exemple, pour l'accès à un emprunt immobilier et à l'assurance emprunteur associée. Voici d'ailleurs ce que disait Fred en 2021. Alors, il vit avec le VIH depuis plus de 15 ans, et je vous laisse l'écouter.
La sérophobie, elle peut aussi se manifester pour des choses de la vie courante, comme demander un crédit immobilier, par exemple. Aujourd'hui, les choses ont un petit peu avancé, mais les restrictions sont toujours hyper, hyper fortes, et la plupart des personnes séropositives payent ce qu'on appelle des surprimes, ou alors elles ont carrément des refus, parce que, en fait, les assurances, tout comme le reste de la société, n'a pas fait sa mise à jour VIH, et reste toujours bloqué en 1995, avant l'arrivée des trithérapies. Ils pensent que VIH égale mort imminente, ou mort jeune, alors que non. En fait, aujourd'hui, l'espérance de vie des séropos est restaurée grâce au traitement.
Alors, les choses ont évolué depuis 2022, puisque les conditions d'accès à l'assurance emprunteur pour un prêt ont été revues pour inclure plus de personnes. Ainsi, l'accès concerne maintenant plus de 53% des personnes vivant avec le VIH, contre 38% avant. Alors, attention, même s'il y a plus d'accès, les choses restent quand même parfois compliquées pour avoir un prêt et une assurance, surtout l'assurance, et à faire valoir ses droits, surtout derrière. Alors, autre discrimination institutionnalisée, jusqu'en 2022, les personnes séropositives ne pouvaient pas entrer dans la police. Et malheureusement, c'est toujours refusé pour entrer, par exemple, dans la gendarmerie, les pompiers ou dans l'armée. De même, elle n'avait pas accès à des soins funéraires. Il a fallu attendre 2018 pour que les choses changent et que les personnes vivant avec le VIH puissent accéder à des soins funéraires lors de leur décès. Alors en fait, ce sont de petites victoires qui ont vraiment une grande importance pour les droits des personnes vivant avec le VIH et surtout pour leur dignité.
Oui, voilà, en fait, au fond, le gros problème, c'est que les mentalités n'ont pas évolué à la même vitesse que les progrès de la médecine. Par exemple, là, on va se dire des métiers comme la gendarmerie, les pompiers, c'est des métiers à risque, donc on risque de se blesser et de saigner. Oui, mais encore une fois, quand on est sous traitement et qu'on a une charge virale indétectable, on ne peut plus transmettre le VIH, donc il n'y a pas de risque. Et voilà, on le dit, on le répète, mais il faut que les mentalités évoluent. Ça veut dire que, concrètement, une personne qui est avec le VIH sous traitement, elle peut être en couple, elle peut avoir des rapports sexuels sans préservatif, elle peut avoir des enfants, elle peut se blesser, saigner, elle peut se faire opérer, elle peut aller chez le dentiste ou chez le gynéco, il n'y a aucun risque et il n'y a aucune précaution particulière à prendre, c'est comme tout le monde. Elles peuvent vivre sereinement donc, sans crainte de contaminer leur entourage et avoir la même espérance de vie qu'une personne n'ayant pas le VIH. Enfin voilà, vivre sereinement, en fait, ce serait vraiment possible s'il n'y avait pas cette sérophobie ambiante. Parce qu'aujourd'hui, ce qui gâche la vie de nombreuses personnes vivant avec le VIH, finalement, ce n'est plus le VIH lui-même, mais les préjugés, le rejet et les discriminations. C'est ce qui fait que beaucoup de personnes cachent leur statut sérologique, notamment à leurs proches et même à leurs conjoints, parce qu'elles savent que si le traitement empêche tout risque de contamination, la rumeur, elle, peut circuler très vite et elle est impossible à arrêter. Il y a de nombreuses personnes séropositives qui vivent ainsi dans la crainte de subir un rejet violent de la part de leur famille, de leurs proches, mais aussi de la part de leurs collègues, et ça peut avoir de lourdes répercussions sur leur vie sociale. Donc c'est pour ça que, encore aujourd'hui, dire qu'on est séropositif, c'est pas un acte simple et anodin.
Et c'est un aspect qui mérite vraiment qu'on en parle de manière plus approfondie, et ce sera justement le sujet d'une prochaine émission.
Donc c'est pour ça, si vous ou une personne proche êtes concernée, n'hésitez pas à nous envoyer vos témoignages, on a vraiment très envie de les partager parce que c'est votre parole qui compte. Donc je vous rappelle l'adresse, sur Instagram c'est ondp radio g et par mail c'est ondp.radio g info@gmail.com.
Dans la seconde partie de l'émission, on va parler de la manière dont le VIH et le sida sont représentés dans les films et les séries et de l'impact que ça peut avoir sur nos représentations. Mais avant ça, eh bien, on va faire une petite pause musicale. Halima, est-ce que tu peux nous présenter la chanson du jour ?
Oui, alors puisqu'on va parler de films et de séries qui traitent du VIH, il y a une chanson qui est incontournable. C'est celle qu'on a pu entendre dans la bande originale de 120 battements par minute. Alors 120 battements par minute, c'est ce film français qui a été réalisé par Robin Campillo et qui est sorti en 2017 et qui remet à l'honneur les luttes des associations dans le début des années 90, en particulier l'association ACT UP Paris. Et dans ce film, on entend une version remixée de la chanson Small Town Boy du groupe britannique Bronski Beat, succès mondial des années 80. Alors la chanson parle d'un jeune homme gay qui vit dans une petite ville et qui souffre de l'homophobie ambiante, de l'isolement et qui décide de quitter sa famille, sa petite ville pour aller vivre dans une grande ville où il pourra enfin être lui-même, trouver une communauté et trouver l'amour. Et c'est malheureusement encore aujourd'hui une réalité pour beaucoup de personnes LGBTQ. Parfois, passé l'émerveillement des débuts, on peut finir par souffrir d'isolement, de l'absence de repères, de l'absence de soutien familial, et l'estime de soi peut en prendre un sacré coup. Et c'est aussi tout cela qui peut parfois entraîner des prises de risque dans sa sexualité et amener à une contamination VIH, qui risque d'être d'autant plus incomprise par ses amis et sa famille qui sont restés dans leur petite ville. Car il y a souvent des liens, des entrecroisements entre homophobie ou transphobie et sérophobie. Et donc, on va s'écouter Small Town Boy de Bronski Beat dans une version remixée par Arnaud Rebottini pour le film 120 battements par minute.
Run away, run away, run away, run away, run away, run away.
C'était donc Small Town Boy des Bronski Beat et vous êtes toujours sur Radio G 101.5 FM dans l'émission Ondes Positives. Alors, on le disait tout à l'heure, un certain nombre de films et séries abordent le sujet du VIH, comme 120 battements par minute. Et dans les exemples qui me viennent comme ça, il y a par exemple l'exemple de Philadelphia.
Oui, Philadelphia, c'est un très beau film des années 90 avec Tom Hanks et Denzel Washington que j'ai eu l'opportunité de voir très récemment là pendant le festival Premier Plan à Angers et qui parle d'un jeune avocat qui est malade du sida et qui intente un procès à ses employeurs pour l'avoir renvoyé lorsqu'ils ont découvert sa maladie qu'il essayait de cacher.
Un exemple de sérophobie du coup.
Voilà, exactement. Bon, il y a un certain nombre d'autres films qu'on peut citer. Parmi les plus connus du grand public, il y a aussi, par exemple, Bohemian Rhapsody, qui est le biopic consacré à Freddie Mercury, le leader du groupe Queen, qui est mort du sida dans les années 80.
Alors, ce sont tous de très beaux films qui traitent intelligemment du sujet et qui ont été salués par le public et la critique, d'ailleurs. Mais alors, quel est le problème avec ces représentations ?
Bah justement, c'est des films très beaux, très émouvants, que ce soit pour ces films ou d'autres, finalement. L'histoire, elle se passe souvent dans les années qu'on appelle les années sida, donc les années 80-90, avant l'époque des trithérapies, quand avoir le VIH, c'était forcément une condamnation à mort et que le sida provoquait une véritable hécatombe. Et c'est ce qu'on voit souvent dans ces films, avec des scènes qui nous retournent les tripes, où on assiste impuissant à la fin de personnages qui sont emportés par la maladie. Et on peut dire que cette période, qu'on l'ait vécue ou qu'on en ait eu un aperçu par ces films, ça a provoqué une sorte de traumatisme collectif finalement. Et il y a ces scènes, ces images qui ont marqué notre imaginaire. Mais en fait, elles sont aujourd'hui en complet décalage avec la réalité de ce que vivent les personnes séropositives au VIH. Parce que le grand public, lui, il est bloqué dans des représentations des années 80 et 90 et on manque de représentations plus actuelles. Par exemple, on en parlait au début de l'émission, avant qu'on découvre que les traitements contre le VIH permettaient non seulement d'améliorer la vie des personnes vivant avec le VIH, mais même d'empêcher toute transmission, bah, les personnes concernées, elles vivaient souvent dans la peur de contaminer d'autres personnes. Et c'est aussi ça qu'on peut voir dans certains films et séries de cette époque. Parce qu'au-delà des films qui traitent spécifiquement du VIH, il y a aussi des séries grand public, comme par exemple, je sais pas si vous vous rappelez, de Urgence, qui abordait ces thèmes. Par exemple, il y avait le personnage de Gianni Boulet, qui était séropositif au VIH, et qu'on suivait de saison en saison. Et moi, je me souviens aussi de la série Les Experts Manhattan, qui date du début des années 2000, et qui avait abordé ce sujet-là. Alors, de manière, je trouve, en fait, avec le recul assez maladroite, enfin, disons, pour l'époque, on va dire que cette façon d'aborder le sujet, elle était sûrement bien trouvée, pertinente, mais maintenant... avec justement la situation qui a beaucoup évolué, je trouve que ça a vraiment mal vieilli.
Et pourquoi du coup, il se passait quoi dans la série ?
Bah en fait, alors moi cette série, hein, je l'adore. C'est un peu mon plaisir coupable. J'aime bien parce que justement, c'est une série à l'ancienne où les épisodes ne se suivent pas forcément. Mais il y avait quand même des arcs narratifs un peu secondaires qui concernaient tel ou tel personnage. Et à un moment, ça concerne justement le lieutenant Stella Bonacera. C'est un personnage féminin que j'adore. Et alors, je vous raconte la scène. Un soir, elle arrive sur une scène de crime où un homme est mort chez lui en explosant une grande baie vitrée. Alors, le sol est jonché de bouts de verre ensanglantés. Et il y a Stella Bonacera, elle porte bien sûr des gants pour analyser la scène de crime, mais en manipulant un bout de verre, elle se coupe quand même profondément. Alors, elle court à la salle de bain, elle fouille l'armoire à pharmacie de la victime pour se soigner, et c'est là qu'elle tombe sur une boîte de médicaments et elle comprend. L'homme avait le VIH. Alors, à partir de ce moment... pendant plusieurs épisodes, on va vivre avec elle sa crainte d'avoir été contaminée. Elle va se faire tester, elle va être angoissée par l'attente des résultats, ça va durer des semaines. Elle va immédiatement être prise en charge et mise sous traitement d'urgence. Hein, on en a déjà parlé du traitement d'urgence. Mais pourtant, qu'est-ce que tu en penses, Florian ? Est-ce que le risque était réel ?
Alors, dans la mesure où le VIH a une durée de vie très très faible en dehors du corps humain, eh bien, le risque de contamination en se coupant avec le verre ensanglanté est assez faible, quand même, voire quasi inexistant. Et en plus, elle trouve une boîte de médicaments donc contre le VIH. Donc, cela induit le fait que la victime était sous traitement. Donc, le risque est encore plus faible.
Voilà. Donc, ça dure pendant plusieurs épisodes. Il y a cette espèce d'angoisse qui plane. En fait, il y a comme une espèce d'aura qui entoure le personnage. C'est un peu comme si elle était suivie par la grande faucheuse qui était toujours derrière elle. Enfin, on a l'impression vraiment que c'est la fin, quoi. Et à l'époque, je me souviens, ça m'avait marqué, ça m'avait ému. Alors que, bon, voilà, avec le recul, je trouve que ça donne vraiment une image du VIH qui est en décalage avec la réalité et ça aide pas aux représentations qu'on peut se faire. Il y a même alors un autre moment dans la série, donc il y a Stella Bonacera, elle est toujours dans l'attente des résultats. Et là, alors pour aucune raison, parce que ça a vraiment servi à rien dans la suite de l'histoire, mais il y a un de ses collègues qui fait un malaise, il perd connaissance et elle le découvre, elle est la seule sur les lieux. Donc il faut qu'elle lui fasse du bouche à bouche pour le réanimer. Et quand elle réussit, elle réanime, il y a ses collègues qui arrivent. Et là, elle va voir son chef paniqué. Elle lui dit qu'elle a peur de lui avoir transmis le VIH. Donc elle est encore plus angoissée. Et alors, bon, qu'est-ce que tu en penses, Florian? Là aussi, au niveau du risque,
alors là,
on est comment?
Alors là, vraiment, il n'y a aucun risque, puisque le VIH ne se transmet pas par la salive.
Voilà, donc on est d'accord. Donc, bon, bah, je vous spoil la fin, hein. Évidemment, son test se révèle négatif, elle n'a pas le VIH, on s'en doutait. Mais voilà, tout ça pour dire que si le grand public n'a baigné qu'avec ce type de personnage et de narration, bah, ça aide pas. Et moi, je pense que des représentations dans la fiction, ça peut aussi aider à faire évoluer les mentalités. En fait, aujourd'hui, ce qu'il nous faudrait, c'est des personnages qui vivent avec le VIH, mais où c'est un non-sujet, finalement. C'est juste un détail de sa vie. Ou alors, par exemple, des couples sérodifférents, c'est-à-dire où il y a un partenaire qui a le VIH, mais pas l'autre, pour qu'on puisse aussi voir leur quotidien, sans que ce soit forcément marqué par le drame autour du VIH. Voilà. S'il y a des auteurs ou des autrices de livres qui nous écoutent, s'il y a des scénaristes ou autres, pourquoi pas, hein? Pensez-y. Pourquoi ne pas penser à inclure des personnages, ce genre de personnages? Ce serait vraiment une manière d'être allié des personnes vivant avec le VIH, justement dans la lutte contre la sérophobie. Et il y a des tas d'autres petites choses que vous pouvez faire à votre niveau. Ça concerne tout le monde. Donc, par exemple, reprendre des personnes qui répètent des préjugés ou des fausses informations sur le VIH. Ou par exemple, signaler à vos proches, tous vos proches, que vous les accepteriez sans condition si elles avaient le VIH. C'est quelque chose qui peut toucher une personne qui est concernée sans que vous vous en rendiez compte. Juste le dire, ça peut être important. Enfin voilà, ça on aurait l'occasion d'en reparler dans une prochaine émission, comme on le disait. On en reparlera. Voilà, donc là, je pense qu'il faut qu'on s'arrête là, c'est ça.
Merci Alima, effectivement. C'est déjà la fin de l'émission.
Bah oui, oui, oui.
Mais pas de panique, on se retrouve dans 15 jours. Alors, on sera le 6 mars et on fera une émission spéciale dédiée à la journée du 8 mars. Donc, je rappelle ce qu'est cette journée. C'est la journée de lutte pour les droits des femmes et des minorités de genre. Et nous aurons avec nous des membres du collectif 8 mars qui viendront nous expliquer les actions qu'elles vont mener à cette occasion.
Et on vous rappelle que vous pouvez nous poser vos questions en passant par le site radio-g.fr, rubrique de l'émission Onde Positive, ou par notre Instagram ONDP Radio G, ou par mail sur ondp.radio-g@gmail.com.
Alors, à dans 15 jours pour continuer d'échanger autour de la santé sexuelle et de la prévention. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci Alima encore.
Merci Florian.
Et d'ici la prochaine émission, eh bien, vous pouvez retrouver toutes les précédentes en podcast sur le site radio-g.fr, rubrique de l'émission Onde Positive. Et en attendant,
prenez soin de vous.